Dans ta grâce, accorde-nous la paix, Seigneur Dieu, pour notre temps, car nul autre ne saurait combattre pour nous si ce n'est toi, notre Dieu. C'est par cette salutation de Luther que le chœur et l'organiste nous ont accueillis ce matin en cette fête de Pentecôte, avec beaucoup de solennité, avec recueillement. 50 jours après avoir célébré Pâques, les chrétiens fêtent donc Pentecôte. C'est une fête qui nous permet de faire souvenir de ce moment où les disciples étaient rassemblés, un peu comme ici, dans l'entre-soi, bien confortable, entre gens de bonne fréquentation. Et ils reçurent de Dieu ce qu'ils n'attendaient pas forcément, le désir et l'intelligence de rejoindre chacun dans sa langue maternelle, dans sa culture, dans ses préoccupations, pour leur parler de cette vie merveilleuse que Dieu rend possible. Il y avait donc un effort des uns vers les autres. Et peut-être cet effort, on peut aujourd'hui encore le manifester en considérant qu'on n'est pas obligé d'avoir chacun pour soi un psautier français, un louange et prière, mais que l'on peut partager avec son voisin et qu'on peut en prendre un pour deux, par exemple. C'est mieux d'en avoir un pour deux que chacun en ait un de ce côté-ci et personne de l'autre côté. Pentecôte, c'est dans notre Église traditionnellement le jour où nous nous occupons des catéchumènes de quatrième année. Je ne dis pas dernière année parce qu'on n'en finit jamais avec la catéchèse. C'est l'occasion pour nous de déclarer à ces jeunes qui ont suivi un parcours catéchétique qu'ils ont désormais en quelque sorte atteint leur âge d'adulte dans la foi. Ils sont capables aussi de communiquer avec leur entourage de tout ce qui fait notre vie, non seulement sous l'angle de l'échange d'informations, mais aussi en parlant d'autre chose que de la pluie et du beau temps, en étant en mesure d'être acteurs dans notre société, en mesure de participer à la construction d'un monde un peu plus harmonieux, un peu plus vivable selon l'espérance de Dieu. Et de fait, c'est ce que ces catéchumènes incarnent ce matin, puisque le culte que nous allons vivre a une liturgie dont les mots sont les mots des catéchumènes. Ce sont eux qui ont composé les textes, ce sont eux aussi qui ont choisi le psaume et les cantiques. Mais je plaide coupable avec eux parce que je ne reporterai pas sur eux le choix de ces cantiques que nous allons entonner avec enthousiasme tout à l'heure. Voilà, ils assument donc leur vocation de disciples du Christ, en devenant acteurs au sein de cette communauté, en devenant adultes parmi les adultes. Et je vous invite, frères et sœurs, à maintenant vivre ce temps de culte face à Dieu en vous levant. Nous allons chanter le premier spontané indiqué dans le livret liturgique jaune qui figure au début du psautier français, Bénissons Dieu, le seul Seigneur. Nous louons Dieu avec Camille.
Quand je dis Dieu, je sens tout l'amour qu'il a pour moi. Quand je dis Dieu, je ressens toute la vie autour de moi. Quand je dis Dieu, je perçois toute la confiance que nous avons en lui et qu'il a en nous. Quand je dis Dieu, je vois tous les peuples qui peuvent se placer sous sa protection. Quand je dis Dieu, je pense à lui qui nous aide à nous relever après nos échecs. Quand je dis Dieu, je vois un Père qui m'aime. Amen.
Et nous poursuivons cette louange par le chant du psaume 68, dans son harmonisation B, celle de Genève. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 5 du psaume 68. Nous prenons place et nous nous interrogeons sur la volonté de Dieu avec Audrey.
Dieu a été présent sur terre à travers Jésus-Christ pour unir tous les hommes, leur enseigner l'amour du prochain, pour former un monde en paix, un monde solidaire. C'est comme un grand chantier. Il faut des ouvriers décidés. À l'époque de Jésus, ces ouvriers étaient entre autres les disciples. Aujourd'hui, c'est nous dont Dieu a besoin pour arriver à son but. Il a besoin de notre aide et nous avons besoin de son aide. Il a besoin de nous et nous avons besoin de lui.
Nous méditons avec Julie.
Dieu, nous ne l'avons jamais vu clairement. Certes, on en a entendu parler. On en a entendu parler parfois comme du plus grand, du plus parfait de tous. Pourtant, Dieu reste comme un étranger pour moi. Alors comment pourrais-je lui faire confiance? Comment pourrais-je faire sa volonté dans ces conditions? Dieu est pour moi un étranger, mais c'est en même temps un ami proche. Oui, c'est vrai, il y a des moments où je doute de Dieu, mais ces moments ne m'empêchent pas de lui faire confiance. Ces moments de doute me permettent de ne pas me fier aux apparences, de ne pas m'en servir à ce que d'autres disent à son sujet. Et quand je m'interroge sur Dieu, je me sens plus aimante, plus juste, plus forte, meilleure, capable de mieux vivre. Par ma prière à Dieu, j'en appelle à ce qui me rend plus humain. Par cette prière, je veux exaucer Dieu. Je compte sur plus que moi pour aimer vraiment mes prochains. Amen.
Sarah nous annonce une parole qui retentit comme une parole de grâce.
Dieu est comme une source de lumière, intensément forte, beaucoup plus forte que le soleil. Il éclaire nos vies, il éclaircit nos sombres journées, il illumine notre histoire. Et le coup de pouce qui nous aide à atteindre le sommet, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous aide à réussir ce qui nous semblait impossible, hors de notre portrait.
Et fort de cet amour indéfectible que Dieu nous préserve, nous pouvons exprimer notre foi, et c'est Emma qui va le faire, et nous pouvons nous associer à sa déclaration de foi.
Ma religion de protestant libéral m'aide à m'ouvrir et à me construire au monde. Je crois en l'amour de Dieu que nous pouvons transmettre et qui nous donne le bonheur le plus pur. Je crois en l'espérance qui me fait vivre et que chaque personne est nourrie d'espoir. Chaque enfant est une promesse que l'on espère. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Je pense à ce Père qui nous rassure, à ce Dieu à qui je veux parler et qui m'aide à me comprendre. Ce Père protecteur d'amour et d'espérance nous attire vers un idéal. J'espère qu'il œuvre en chacun de nous, comme il l'a fait pour Jésus-Christ, qui nous a enseigné comment être emporté par cette force. Il nous a expliqué que le mieux pour atteindre cet idéal, c'est l'amour. Il existe plusieurs portes, il existe plusieurs routes pour l'atteindre. Chacun choisit sa porte, et celle que j'ai choisie est la porte de ce temple. Aujourd'hui, j'accepte l'alliance avec Dieu. J'accepte de lui faire confiance, comme il a confiance en moi. Je le dis, devant vous tous, si différents et néanmoins unis, donc semblables à un arc-en-ciel qui colore nos vies et ce monde, vous, l'arc-en-ciel dont Dieu a affirmé à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre.
Place. Frères et sœurs, nous avons donc la joie d'entourer ces joyeux catéchumènes dont nous avons vu qu'ils étaient vivaces tels des cabris. Il y a donc Emma, il y a Arthur, Camille, Audrey, Sarah, Jade, Pénélope, Gaspard, Julie. Voilà, ce sont ces catéchumènes qui ont décidé de répondre à l'appel de Dieu et qui ont demandé les uns le baptême, les autres la confirmation. Ils ont suivi scrupuleusement leur parcours catéchétique, un peu d'histoire, un peu d'exégèse, un peu de culture, beaucoup de discussions, l'avis, des questions, beaucoup de questions, pas forcément les leurs. Et puis donc, aujourd'hui, le temps de marquer le fait qu'ils font un pas décisif. Chaque jour, Dieu nous donne la force de persévérer dans la foi, et chaque jour est donc, en quelque sorte, un nouveau chemin. Chaque jour est une nouvelle route que nous empruntons. Dieu sera votre délivrance dans la tentation, dans le doute, il sera votre secours. Dans la peur, il vous redonnera du courage. Dans la souffrance, il sera un véritable réconfort. Dieu chemine avec nous, respectant le rythme de notre route, respectant parfois les haltes forcées, mais aussi les enthousiasmes et les élans. Vous, chers parents, chers membres des familles de ces heureux catéchumènes, les amis qui sont là, mais aussi la famille spirituelle de l'oratoire du Louvre, nous sommes assez heureux de pouvoir être là pour ce moment décisif dans votre vie, ce moment qui répond à votre libre décision, ce moment qui ne vous a pas été imposé à main forte et bras raccourcis. Aucune puissance au monde ne saurait nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, et c'est cet amour qui a prévalu pour votre décision aujourd'hui. Alors, frères et sœurs, Dieu nous rappelle à tous le baptême que nous avons nous-mêmes reçu, ce baptême dont il y a pu y avoir en écho une confirmation quelques années plus tard, et il nous invite à demeurer fidèles à la grâce qui nous a été faite, ces catéchumènes. Ouais, cela. Précisément, aujourd'hui, nous font la grâce de ce témoignage de leur foi, de leur désir de cheminer en tant que disciples du Christ. Ne laissons pas ce don sans effet qu'ils participent à nous faire avancer aussi.
Voici la fin de l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu. On voit les apôtres, les disciples qui ont rendez-vous avec Jésus sur la montagne. Voilà ce qui arrive. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais ils eurent des doutes. Vous voyez, donc on a le droit d'avoir des doutes, comme vous le disiez tout à l'heure. Les plus grands disciples, les plus grands apôtres étaient entre l'adoration et le doute. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai dit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette promesse est pour vous, chers catéchumènes. »
Emma. En principe, on dit « me voici ». Ben, c'est dans la titulature biblique. Emma, que demandes-tu ?
Je demande le baptême.
Avec l'Église chrétienne, veux-tu confesser ta foi en Christ ?
Oui, Jésus-Christ est le Seigneur.
Emma, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Emma, pour toi aussi, cette parole est vraie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quelle surprise ! Ce n'est pas un baptême sec. Non, on reste ici. On se souvient que dans cette confession de foi que tu nous as dite, il y avait un verset biblique qui était au cœur. Et est-ce que tu peux nous redire quel était ce verset biblique que tu as retenu pour donner de la couleur ?
Telle est l'alliance du signe, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre.
Qu'on ne me dise pas que le baptême est sans effet et que ça ne bouleverse pas les cœurs.
Arthur. Arthur, que demandes-tu ?
Je demande le baptême.
Avec l'Église chrétienne, veux-tu confesser ta foi en Christ ?
Oui, Jésus-Christ est le Seigneur.
Arthur, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, l'Éternel te conduit et te garde, il t'accompagnera chaque jour sur la route qui est la tienne. Alors tu as choisi un verset.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Donc c'est avec ce premier verset du psaume 23, oui effectivement, cette prière, cette promesse que Dieu t'accompagnera, et c'est un écho aussi bien sûr à cette parabole de Jésus-Christ avec la brebis perdue qui, même si on est le plus perdu des perdus, même si on était le plus perdu des perdus, nous avons un Dieu qui, sans aucun jugement, viendrait nous aider, nous réconforter, nous porter. Merci, Arthur.
Allez, Camille. Camille, que demandes-tu ?
Je demande la confirmation de mon baptême.
Avec l'Église chrétienne, veux-tu confesser ta foi en Christ ?
Oui, Jésus-Christ est le Seigneur.
Camille, Dieu te conduira sur le chemin de vie dans sa paix, dans sa force et dans sa joie. Maintenant, Camille, dis-nous le verset biblique que tu as choisi pour donner là aussi une nuance à cette confirmation.
Dans le Cantique des Cantiques, verset 8, chapitre 8, excuse-moi. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris.
Merci beaucoup. Alors maintenant, c'est Audrey. Audrey, que demandes-tu ?
Je demande la confirmation de mon baptême.
Avec l'Église chrétienne, veux-tu confesser ta foi en Christ ?
Oui, Jésus-Christ est le Seigneur.
Tu peux vraiment compter sur le Seigneur, il est fidèle, il t'accompagnera chaque jour sur la route qui est la tienne, te portant, te réconfortant, t'éclairant et te libérant pour avancer sur le chemin de ta vie. Quel verset tu as choisi pour donner un peu ton témoignage à cette assemblée?
C'est dans la première épître de Jean, chapitre 3. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. »
Merci pour ce beau passage, en même temps plein de confiance en Dieu et puis de force théologique.
Julie, que j'aperçois. Julie, que demandes-tu?
Je demande la confirmation de mon baptême.
Avec l'Église, veux-tu confesser ta foi en Christ?
Oui, Jésus-Christ est le Seigneur.
Julie, Dieu qui est la source de l'amour pose sur toi un regard de bienveillance. Il te donne son esprit de lumière et de sagesse pour que tu le serves dans la joie. Julie, je te propose de partager maintenant aussi ce verset que tu as choisi, ces versets.
Donc c'est Matthieu, chapitre 7, versets 13 et 14. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. » Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent.
Alors maintenant, c'est Sarah. Sarah, que demandes-tu?
Je demande la confirmation de mon baptême.
Avec l'Église chrétienne, veux-tu confesser ta foi en Christ?
Oui, Jésus-Christ est le Seigneur.
Eh bien, ce Seigneur t'accompagnera sur la route qui est la tienne. Tu peux lui faire confiance, il est fidèle. Jamais il ne te laissera tomber. Tu as choisi un passage aussi dans la Bible pour dire un peu ce qui compte aujourd'hui pour toi le plus.
Alors, chantez à celui qui s'avance dans les cieux antiques. Voici, il fait entendre sa voix puissante.
La vie est comme un chant, grâce à toi en particulier, et puis grâce à ce Dieu qui nous porte.
Mais oui, Jade. Alors, Jade, que demandes-tu?
Je demande la confirmation de mon baptême.
Tu demandes quoi? Non, il faut que ce soit clair et distinct. Hein.
Je demande la confirmation de mon baptême.
Avec l'Église chrétienne, veux-tu confesser ta foi en Christ?
Oui, Jésus-Christ est le Seigneur.
Jade, Dieu te conduira sur le chemin de vie, te donnant son esprit de joie, son esprit de clarté. Il te permettra ainsi d'être artisan de paix, d'être source d'amour et d'être vecteur de joie dans le monde. Et je te propose de partager avec nous ce verset que tu as choisi.
Reviens Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde.
Pénélope. Pénélope, que demandes-tu?
Je demande la confirmation de mon baptême.
Avec l'Église chrétienne, veux-tu confesser ta foi en Christ?
Oui, Jésus-Christ est le Seigneur.
Eh bien, le Seigneur t'accompagnera sur la route qui est la tienne. Il lèvera même son visage vers toi, nous dit le livre du Nombre, c'est-à-dire qu'il se met en dessous de toi, pour te porter, pour te soutenir, pour t'encourager chaque jour de ta vie. Quel est le passage que tu as choisi dans la Bible?
Alors c'est Matthieu, chapitre 25, verset 13. « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. »
Merci beaucoup.
Gaspard, que demandes-tu?
Je demande la confirmation de mon baptême.
Avec l'Église, souhaites-tu confesser ta foi en Christ?
Oui, Jésus-Christ est le Seigneur.
Gaspard, L'Éternel qui nous bénit et nous garde porte sur toi un regard de bienveillance pour accompagner ta route, pour ouvrir ton horizon, pour rendre ton avenir encore plus radieux et plus joyeux. Et je te propose, Gaspard, de partager avec nous ce verset que tu as retenu.
Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres.
Chers catéchumènes, vous avez donc reçu le baptême, reçu cette confirmation du baptême, et vous avez attesté votre désir de prendre vous aussi votre part à la construction de cette création espérée par Dieu, ce monde vivable, ce monde harmonieux, en étant disciple du Christ. Cela signifie que vous aurez bien sûr quelques impératifs, quelques devoirs et pas simplement des droits. Un avenir s'ouvre devant vous, mais vous avez aussi votre part à prendre pour que cet avenir soit lumineux, qu'il soit fraternel, et cela, vous pourrez le faire, le réaliser en vous efforçant de vivre en fidèle du Christ, soit, mais aussi en aimant Dieu de tout votre cœur et votre prochain comme vous-même. Est-ce bien là ce que vous voulez? Alors, en principe, vous êtes un peu dans la force de l'âge, vous êtes censé développer une énergie que nous, les anciens, nous n'avons plus tout à fait. Donc je vous propose de faire vibrer un peu plus ce « oui ». Toute la vie de l'Église, et en particulier la lecture et l'interprétation des textes bibliques, la prière, le culte, la communion sont les moyens que Dieu nous donne pour persévérer dans la foi que vous venez de confesser et pour être fidèle au chemin que vous avez choisi aujourd'hui.
Donc avec grande joie de vous accueillir dans cette église, franchement, pendant les années où nous avons cheminé ensemble, eh bien vous avez été formidable. Donc ce n'est pas simplement un accueil de convenance que nous vous faisons dans cette église, c'est vraiment avec joie que nous vous avons découvert, que nous avons discuté, que vous nous avez réjouis au cours des cultes de jeunesse en particulier, mais aussi à d'autres cultes où on vous aperçoit de temps en temps. Merci pour tout ce que vous êtes. Maintenant, nous allons chanter un cantique, je crois.
Oui, parce que nous sentons bien à quel point ce sont des êtres renouvelés, qui ne sont plus tout à fait les mêmes, qu'ils ont en quelque sorte quitté les habits du vieil homme, de la vieille femme, pour revêtir les habits du jeune homme et de la jeune femme. Et c'est ce que le cantique 150, « À toi la gloire » exprime, puisqu'il y a là une geste de Pâques, une geste de résurrection. Et vous pouvez regagner vos places. places. Et pour ceux qui n'auraient pas de siège, il y a encore quelques places dans le chœur qui sont tout à fait accessibles. N'hésitez pas à traverser la nef pour venir prendre place ici. Pour nourrir notre méditation ce matin, en ce jour de Pentecôte, j'ai retenu un sous-texte de Pentecôte, un texte dans l'Ancien Testament qui évoque une Pentecôte et qui est finalement le texte qui s'organise autour du verset qu'Emma avait choisi. C'est donc dans le livre de la Genèse, des passages que je choisirai entre les chapitres 6 et 9 qui évoquent l'histoire de Noé et de son arche. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japhet. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu feras l'arche avec des nids, comme des nids d'oiseaux, et tu l'enduiras de bitume en dedans et en dehors. Et voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée de haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, tu prendras de tous les aliments qu'on mange, et tu en feras une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture, ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Les eaux crurent, non pas du verbe croire, mais du verbe croître, et soulevèrent l'arche, elle s'éleva au-dessus de la terre. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche, mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ce qui était avec lui dans l'arche. Et la pluie ne tombla plus du ciel. Les eaux furent dominatrices sur la terre pendant 150 jours. Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite sur l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit entrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche, et la colombe revint à lui sur le soir. Et voici, une feuille d'olivier était arrachée, et elle la tenait dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda et voici, la surface de la terre avait séché. Alors Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme, et tes fils, et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et se multiplient sur terre. » Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre selon leurs espèces sortirent de l'arche. Dieu bénit Noé et ses fils et il leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. » Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, j'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Et Dieu dit, « C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. » J'ai placé mon arc dans les nuages, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans les nuages, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants, de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans les nuages, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, « Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. » Prenons notre recueil de chants, louanges et prières pour chanter le cantique 297 avant de prendre ce texte biblique à bras-le-corps. Cantique 297, les strophes 1, 3 et 4.
La Bible nous rapproche de toi, Éternel, à travers le témoignage de personnes qui ont reconnu ta présence active. Ouvre maintenant notre esprit pour que nous entendions un écho de ta parole dans ces mots de la Bible que nous avons lus.
Chers frères et sœurs, ce mythe de la Genèse est vraiment bien adapté pour vous, chers catéchumènes, vous qui êtes à l'orée de votre vie d'adulte. C'est un récit qui est un bon équipement pour vous aider à affronter ce que sera votre vie, une vie dont il faut vous prévenir qu'elle sera pas simplement un fleuve tranquille, mais qu'elle pourra aussi, par bien des moments, souvent être difficile, dure. Et au fond, la vie à laquelle vos parents et l'Église vous préparent depuis toujours, c'est une vie qui, par bien des aspects, est agressive. Une vie où il faut parfois faire face à ce que Noé doit lui-même affronter et qui, dans le texte hébreu, se nomme Hamas, la violence. Alors, pour que ce texte vous soit utile, pour que ce mythe puisse fonctionner, encore faut-il entrer dedans et le travailler au corps. Comme tout outil, si on ne l'utilise pas, ça ne fonctionne pas. Alors, commençons par faire connaissance avec ce qu'il est convenu d'appeler l'arche de Noé. Tout d'abord, il est utile de savoir que ce mot qui désigne l'arche, en hébreu, Teva, désigne à la fois le coffre et le mot, M-O-T, le mot. Entrer dans le coffre, entrer dans l'arche, c'est aussi entrer dans le mot. Et puisque nous avons les cotes, les dimensions, eh bien nous pouvons interroger les mesures de ce mot. Alors, premier indice, vous l'avez entendu, l'arche est faite en trois niveaux. Il y a la sacristie, la salle haute et la salle super haute, ou la nef, les balcons et les coursives. Autrement dit, nous entendons que l'arche est construite sur la même architecture que le temple de Jérusalem et de l'oratoire du Louvre. Plutôt bon signe. Cela nous enseigne en tout cas qu'il doit y avoir un rapport intime entre l'arche et le temple de Jérusalem, symboliquement, le lieu où l'Éternel se trouve. Il est rare que l'on se souvienne des dimensions exactes de l'arche. Quelqu'un s'en souvient-il? Je les ai dites il y a 5 minutes. Arthur? Excellent, Arthur s'est souvenu. Si vous ne vous en souvenez pas, il y a un procédé mnémotechnique très simple. Simplement, il faut connaître les rudiments d'hébreu. En hébreu, c'est comme en français quand on est au collège, on fait des petits codes. La première lettre de l'alphabet vaut 1, le aleph. La deuxième lettre vaut 2, le bet. La troisième, guimel, vaut 3, et ainsi de suite. Donc, quand on a les cotes, on arrive à retrouver le nom. Ou quand on a le nom, on arrive à retrouver les cotes. Comme nous sommes bien chez l'Éternel, prenons le nom de Dieu. L'Éternel, est-ce que vous vous souvenez, quel est le nom en hébreu? Comment ça se joue en hébreu? Ouais, c'est le tétragramme, souvent translittéré par YHWH en hébreu, Yod, E, Wav, E. Les valeurs numériques sont les suivantes. Yod, c'est le 10, le E, c'est 5, le Wav, c'est 6, et le E, c'est 5. Comme le catéchumène est un être complet, il ne se contente pas de faire de l'exégèse de l'histoire, il fait aussi des mathématiques. Et il va donc conjuguer les lettres du divin pour retrouver les cotes. On va donc multiplier les mesures de l'Éternel 2 à 2. Et, Yod et E, les deux premières lettres, 10 fois 5, ça fait bien 50. Ensuite, on prend les deux autres, 6 fois 5, ça fait bien 30. Nous avons donc la largeur et la hauteur. Quant à la longueur, eh bien, nous la retrouvons en prenant ces deux dimensions et en les conjuguant, en les multipliant par les mesures qui les jouxtent. Ce qui donne bien 50 fois 6 égale 300 en longueur. Puis la dernière dimension. La dernière dimension, c'est 30 fois 5, qui donne 150. Le nombre de jours où les eaux furent dominatrices sur terre. Autrement dit, nous avons là le symbole de ce qui représente le récit du déluge. À la fois rentrer dans le nom de Dieu, pourquoi ? Pour pouvoir faire face aux eaux dominatrices. Entrer dans cette arche de Noé, c'est donc entrer dans le mot qui a les dimensions de l'Éternel. Et c'est à peu près ce que nous avons essayé de vous faire vivre pendant ces années de catéchisme. Vous faire entrer dans une langue qui n'était pas votre langue, mais qui était une langue à la mesure de l'Éternel, avec la découverte d'un vocabulaire, d'une grammaire, du syntaxe, qui vous a fait découvrir un autre environnement, un autre horizon que celui auquel vous étiez habitué, et qui était en fait les prémices d'une création à la hauteur de l'Éternel. Le catéchisme, c'est quelque chose qui est un petit peu coercitif. On vous oblige quand même à vous remuer les méninges. Et ce que nous avons essayé de faire, c'est d'élargir votre langue, d'élargir les mots, et pas forcément d'élever votre niveau de langage au point de vous donner des effets de préciosité. Je veux dire par là que la langue théologique que nous vous avons confiée n'est pas une langue sophistiquée qui ferait sourire. Donner aux mots la mesure de l'Éternel, c'est entrer dans les mots qui nous permettront de dire ce qu'il y a de plus important pour nous, pour vous. Avoir les mots pour le dire. Ne pas être condamné à être frustré de ne pas pouvoir exprimer de ce qu'il y a de plus important dans notre vie, de ce qui bouillonne en nous, de nos véritables désirs, de nos véritables envies. C'est en acquérant un peu de vocabulaire, un peu de syntaxe, qu'il est quand même plus facile d'établir, par exemple, une relation amoureuse avec quelqu'un, car, convenez-en, il est tout de même plus agréable pour l'être aimé d'entendre « Belle marquise, vos yeux bleus me font mourir d'amour » plutôt que d'entendre « Je te kiffe, grave ». Eh bien, c'est cela. Avoir les mots qui sont à la hauteur de l'enjeu. Des mots qui respectent l'autre, et non pas des mots qui écrasent, des mots qui résument, des mots qui rendent plus petits que la réalité qu'ils entendent décrire. Donner à notre langue les dimensions de l'Éternel, c'est donner de l'ampleur à notre réflexion. C'est aussi donner de l'ampleur à notre psychisme, parce que le psychisme se construit sur les mots dont nous disposons et sur la manière que nous avons de les agencer, de les organiser, de les conjuguer. C'est donc en donnant à son vocabulaire les dimensions de l'Éternel que Noé va réussir à ne pas succomber au Hamas, à la violence. Parce que mettre des mots sur la violence, c'est mettre une distance entre la violence et nous. Quand on arrive à dire ce qui nous fait mal, déjà ça fait moins mal. Déjà ça nous ronge moins. C'est une manière de neutraliser les effets. Et c'est aussi le sens de ce mythe, de pouvoir parler de la vie telle qu'elle est, non pas la vie avec le chant de petites fraises comme le chantent les Beatles, mais la vie où il faut lutter, comme le chantent les Rolling Stones. Ça, c'est pour notre sacristain. Je vous avais prévenu, un jour, il fallait que ça sorte. Donc, l'idée de ce mythe, c'est de partir d'un élément de vérité, la violence. Mais le mythe ne cherche pas à dire les choses telles qu'elles se sont passées un jour. Il ne s'agit pas de retracer un événement qui serait intitulé « déluge ». Il s'agit de repérer que notre vie est faite aussi de déluges, et pas simplement en termes climatiques, comme cela arrive si souvent, comme cela est arrivé récemment à Nancy. Non, des déluges dans notre existence, où ça nous tombe dessus et que nous risquons d'être submergés et liquidés. Comment surnager ? C'est à cela que ce mythe nous fait penser. On pense qu'il faut se carapater dans quelque chose de bien étanche, de bien hermétique. Une arche d'alliance ferait l'affaire. Mais voyez que Noé fait un pas de plus. Il ouvre la fenêtre et il va lâcher un corbeau et une colombe. En général, on ne s'intéresse qu'à la colombe, que l'on part de toutes les qualités, de toutes les vertus, colombe de la paix, jolie colombe, ma douce colombe, etc. Moi, je trouve le corbeau autrement plus intéressant. Et puis, avouez que les pasteurs ont quand même quelque chose du corbeau qui suscite quand même un intérêt. Je trouve le corbeau plus intéressant parce que le corbeau, lui, ne se contente pas d'être une sorte de baromètre climatique, d'être une sorte de nilomètre qui nous montre les crues et les décrues. Le corbeau, il va aller et venir à la surface des eaux jusqu'à ce qu'apparaisse la terre sèche. C'est ainsi qu'avait commencé le premier récit de la création, avec l'Esprit divin planant à la surface des eaux afin de rendre la vie possible. Ici, le corbeau figure l'Esprit divin qui s'efforce de rendre le monde vivable. De même que c'est le corbeau qui avait nourri le prophète Élie lorsque celui-ci manquait de périr. Cela signifie qu'il ne s'agit pas simplement de se protéger du monde hostile, comme le fait Noé dans un premier temps. Il s'agit aussi d'intervenir sur l'état du monde, pour le pacifier, pour le créer à nouveau, pour le créer jusqu'à ce qu'il soit vivable, pour en faire une terre habitable où il est à nouveau possible de vivre et de croître. Cela ne se fait pas en un seul vol supersonique. Le corbeau revient de nombreuses fois dans l'arche, car la pacification du monde est une négociation qui demande des allers-retours, qui nécessite que l'on entre à nouveau dans l'arche, dans la langue, afin d'y retrouver les ressources nécessaires, utiles pour l'étape suivante. Se ressourcer, comme on dit. Retrouver la porte du 145 rue Saint-Honoré pour recharger les batteries, pour se réinvestir des mots qui nous seront utiles pour décrire le réel et le rendre moins affreux, moins terrifiant, plus familier. L'esprit ne cesse pas son œuvre tant que le monde n'est pas totalement rendu à la vie. Comme les éclaireurs, il s'agit d'être tenace. On ne baisse pas les bras et on ne s'arrête pas tant que la mission n'est pas finie. Tant que le désert humain n'aura pas reverdi, tant qu'il ne sera pas à nouveau possible de cultiver son jardin et d'y faire croître et multiplier l'humanité, on continue. Notons aussi que l'œuvre consiste à rendre la terre habitable, le monde vivable, et je dirais pas plus. Il ne s'agit pas d'imposer un modèle politique, un modèle économique, un modèle théologique, un modèle social, un modèle éducatif ou quelque modèle que ce soit. Il s'agit de rendre la vie à nouveau possible, c'est-à-dire permettre à chacun de pouvoir mener son existence, d'être reconnu dans son intégrité et d'avoir une place pour vivre. Il s'agit aux uns et aux autres d'être reconnus dans leur humanité, pas de leur imposer un prêt-à-penser, un prêt-à-croire. Il s'agit de pouvoir permettre à chacun de vivre sa vie et de vivre avec les autres. Selon le mot du pasteur Martin Luther King, si nous ne vivons pas ensemble comme des frères, nous mourrons ensemble comme des imbéciles. Alors, face à la dureté du monde, il est parfois tentant de dresser une clôture étanche entre les autres et nous. Il est parfois tentant de se réfugier dans un petit nid douillet, à l'abri de tout ce qui peut blesser et d'y rester, de s'isoler définitivement du monde, d'un monde que l'on estime définitivement fichu. Alors à quoi bon s'en mêler ? Mais ce n'est pas ce que fait Noé. Noé qui va sortir de l'arche, qui va sortir du mot, qui va sortir de sa logique personnelle, qui va sortir de sa propre vision du monde, utile pour ne pas se diluer dans les flots de la violence, utile pour se reconstruire, mais insuffisante pour mener une véritable existence. Rester dans son monde clos, rester dans l'entre-nous, dans la communauté bien confortable, c'est s'enfermer dans l'entre-soi, c'est se carapater dans ses propres certitudes, c'est se cloîtrer. Notre religion n'est pas un contenant. Notre religion n'est pas une bulle. Notre religion n'est pas le lieu dans lequel nous nous terrons, nous nous enterrons. Ce n'est pas un vêtement dans lequel nous nous glissons une fois pour toutes. Ce n'est pas une somme de rituels bétonnés dans lesquels nous nous coulons. Ce ne sont pas des dogmes dans lesquels nous nous réfugions. Notre religion se fonde sur un évangile, l'évangile éternel qui vibre. Il vibre dans les textes bibliques. Il vibre à chaque fois que nous ouvrons notre fenêtre et que nous allons à l'attaque du monde, dans une posture conquérante, pour essayer d'apporter cet esprit de Dieu qui est donc l'établissement de relations, de communication, de dialogue, et qui permet à l'autre d'être reconnu dans son humanité. Notre religion, c'est à chaque fois que nous avons un regard bienveillant pour quelqu'un. Notre religion, c'est les actes d'amour qui nous sont inspirés par notre méditation de ce qu'est vraiment la vie à la hauteur de Dieu. Notre religion, c'est la confiance que nous avons dans la possibilité de ressusciter la vie dès lors que nous prenons la mesure de ce qu'est vraiment la vie, selon ce que l'Éternel nous rend capable. Certes, nous pourrions penser que l'arche, c'est vraiment une sorte de coffre bien hermétique. Vous pensez, l'arche est recouverte de bitume à l'intérieur et à l'extérieur. Pas plus étanche que ça. Comment ne pas envisager que l'arche soit quelque chose pour refouler tout ce qui vient de l'extérieur et donc de faire de même dans notre vie personnelle, de toujours rejeter ce qui ne correspond pas à ce qu'il y a exactement à l'intérieur. Mais laissons le texte hébreu parler dans sa langue et reprenons la consigne de fabrication au plus près des mots en faisant juste une translittération. Parlant de l'arche, l'Éternel dit « Tu la kafériseras de la maison et de l'extérieur dans le kafer. » Le verbe kafer signifie « recouvrir ». Il signifie également « pardonner ». C'est le verbe qui donne le Yom Kippour, qui est une forme intensive de ce verbe. Autrement dit, la consigne, c'est de couvrir le lieu où nous nous tenons, notre base arrière de la possibilité du pardon. Un pardon qui vaut aussi bien pour l'intérieur de la maison que pour l'extérieur. Vous voyez, il ne s'agit peut-être pas de faire de nos arches des lieux tout à fait hermétiques, étanches, mais peut-être des espaces dont les frontières ruissellent du pouvoir de pardonner. Et c'est le pardon, en fait, qui là est envisagé comme résolution du Hamas, de la violence. Évidemment, cela ne va pas de soi, parce que face à la violence, ce que nous sommes naturellement enclins à faire, c'est de déclencher une violence au moins égale, si ce n'est supérieure, pour mettre un terme à la violence. Mais nous découvrons là, une fois de plus, que l'Éternel contrarie notre penchant naturel et envisage que ce soit le pardon qui soit la résolution au Hamas de façon pérenne. Et pour cela, il s'agit de sortir de notre entre-soi. Et d'ailleurs, Noé sort de l'arche. Sortir de l'arche, c'est sortir de l'enveloppe, du contenant, c'est sortir de la religion formelle, de la religion qui n'est qu'un vernis que nous déposons sur notre vie pour nous protéger des agressions extérieures, de la religion qui nous fige et fait de nous un bloc imperméable aux frémissements du monde. Notre religion, c'est la sortie de la religion formelle et l'adhésion à la religion du fort intérieur. C'est pour ça qu'il nous faut des mots. C'est pour nourrir notre être intérieur, pour donner de la chair à ce que nous pressentons, à nos intuitions, et que ça ne reste pas simplement de bons sentiments, mais que ça puisse se traduire en programme d'action. Sortir de l'arche, du mot, de notre nid, c'est sortir de notre vision étriquée du monde. Nous n'avons qu'une vue partielle de la vie. Individuellement, nous n'avons qu'un point de vue du monde, bien insuffisant pour en comprendre la complexité. Sortir de l'arche, c'est se confronter à d'autres points de vue. C'est se frotter à d'autres convictions. C'est se frotter à d'autres cultures. Et c'est à cette condition, nous fait comprendre ce mythe, que nous pouvons éviter les grands malheurs, les grands cataclysmes de l'histoire. Petite tautologie. Pour faire toute la lumière sur une situation, que faut-il ? C'est facile, c'est toute la lumière. Le problème, c'est que nous n'avons jamais toute la lumière. Nous n'avons qu'une partie infime de la lumière. Nous ne possédons qu'une nuance. C'est en associant notre part de vérité à d'autres que nous pouvons restituer la lumière dans son intégralité, dans sa pureté que vous évoquiez. Et c'est là l'image de l'arc-en-ciel. Lumière réfractée qui révèle le spectre de toutes ces couleurs qui nous sont si familières lorsque le ciel est un peu orageux. Chaque couleur, chaque onde prise individuellement n'est pas la lumière dans son intégralité. Chaque onde ne peut donc donner la clarté intégrale d'une situation. Et c'est cette image qui a été retenue pour exposer la nécessité d'avoir une foi polychromique, plutôt que de verser dans le monochrome. Le modèle pluraliste, c'est ce qui nous préserve au mieux des dérives autoritaires qui créent ces totalitarismes, ces dictatures conduite par des personnes qui pensent détenir la vérité, toute la vérité, l'ensemble de la vérité, et qui profitent de cette situation dominante pour écraser, et en tous les cas, pour rendre captives les consciences des autres, pour créer une sorte de déluge. De même que nous ne pouvons pas nous contenter de passer notre temps dans le nid douillet d'une petite communauté bien agréable et bien confortable, baignée par les raies de lumière qui caressent les joues, et qui rendent les sourires lumineux. De même que nous ne pouvons pas nous contenter de nous en tenir à nos systèmes de pensée, qui sont toujours à reprendre, toujours à réformer. Eh bien, nous devons envisager qu'il y a, par exemple, une vie en dehors de l'oratoire du Louvre. Il y a des personnes, il y a des cultures qu'il nous faut fréquenter, sinon pour rendre le monde plus harmonieux et plus vivable dès à présent, du moins pour éviter quelques grandes catastrophes dans l'avenir. Amen. Sans retenue, il s'agit de sortir de nous-mêmes pour chanter ce cantique 417. Toute corde vocale démesurée ou à la hauteur de l'Éternel, nous chanterons les quatre strophes de ce cantique. Place. Quelques informations à partager. Tout d'abord, vous dire qu'à l'issue du culte, un verre fraternel est à votre disposition dans la grande sacristie, qu'il conviendra de féliciter nos catéchumènes, qu'il y a également la liste d'inscription pour le repas paroissial qui aura lieu dimanche prochain. Pensez à vous inscrire pour que nous préparions les bonnes quantités. Et puis des membres du chœur de l'oratoire se tiendront à votre disposition pour vous vendre à l'avance les concerts, les places de concert pour le Requiem de Verdi qui sera donc joué le jeudi 7 juin ici même. Les places sont à 10 euros en tarif plein et 8 en tarif réduit, je crois. Vous dire dans notre calendrier que mardi aura lieu l'initiation théologique, dernière séquence, que dimanche prochain le culte est à 10h30 comme d'habitude, et donc vous n'oubliez pas qu'il y a le repas paroissial après. Chers catéchumènes, le conseil presbytéral va maintenant vous remettre un petit quelque chose. Petit par le volume, mais à vrai dire, il a les dimensions de l'Éternel. Nous allons vous remettre à chacun un recueil des prédications qui ont été données à l'oratoire du Louvre dans les années 40-44. C'est un recueil qui a été composé par le conseil presbytéral de l'époque, en reconnaissance pour ses pasteurs, les pasteurs Vidal, Bertrand, Vergara, qui se sont efforcés de faire planer le corbeau à la surface d'un monde qui était tout à fait cataclysmique. Un lieu où on a ouvert largement la fenêtre, un lieu où les paroissiens sortaient de l'arche et allaient rendre le monde un peu plus vivable, un peu plus harmonieux. Voilà, donc nous allons à chacun remettre un recueil et je ne saurais trop vous conseiller de le lire pendant vos vacances. Ça fait partie de l'équipement précieux pour le chrétien que vous êtes. Alors Julie, il faut aller faire un petit saut jusqu'ici. J'en profite pour faire des bisous. Camille. Gaspard. Jade. Audrey. Sarah. Et... Ah, j'avais peur que le cabri soit parti. Bonne nuit. Arthur. Et donc Emma. Voilà, ça fait partie des lectures qui nous aident à être un peu plus humains et un peu plus à la hauteur de notre vocation. C'est maintenant le moment de l'offrande. Eh bien, que cette offrande soit également selon la mesure de ce que l'Éternel nous rend capable de faire et d'accomplir.
Nous élevons nos cœurs vers le Seigneur. Ô notre Dieu, Père éternel et saint, il est vraiment digne et juste, c'est notre joie et notre salut de te rendre grâce pour la gloire de ta création et pour ton amour. C'est pourquoi avec tous les chrétiens dans leur diversité, avec la grande nuée des témoins de toute génération, en une joie commune, nous te rendons gloire. Saint, saint, saint est l'Éternel notre Dieu. Toute la terre est remplie de sa lumière. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et voilà comment l'évangile, selon Matthieu, nous rapporte le dernier repas que Jésus prit avec ses disciples. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous ». Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Et Jésus ajoute cette promesse qui est pour chacun de nous et qui se réalise par l'Esprit. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père.
Maintenant, Seigneur, tout est entre tes mains. Nous avons préparé la table, viens toi-même la présider. Voici nos cœurs mal préparés, nos prières insuffisantes, notre foi si peu active. Donne-nous dans ce repas ton pardon, ta présence et ta paix. Veuille par l'action de ton esprit nous permettre de vivre ce temps comme une communion. Comme la nourriture fortifie le corps, comme le vin réjouit l'esprit. Que ce pain nous donne la force qui vient de toi, et ce vin, la joie que tu veux pour nous. Que ce repas nous annonce le royaume que tu nous charges de proclamer. Et avec Jésus, nous nous levons et nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Seigneur, je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Seigneur, je ne suis même pas digne de ramasser les miettes qui tombent de ta table, mais tu as dit, venez à moi, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et ainsi, c'est sans aucune crainte que quiconque le désire peut s'approcher de la table, prendre le pain et s'il le désire, boire dans la coupe. C'est Jésus-Christ lui-même qui nous invite. Venez, nous dit Jésus-Christ, car tout est prêt. Nous nous avancerons donc par l'allée centrale en des tablées d'une cinquantaine de personnes. Et une fois communiés, eh bien vous pourrez repartir par les allées latérales.
Le pain que nous partageons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ.
Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour chacun de nous.
Frères et sœurs, regagnons nos places dans la joie du ressuscité. Amen.
Merci pour la simplicité de ce repas. Merci pour la simplicité de ta présence en Jésus-Christ. À nous qui avons la nourriture, donne faim et soif de justice et d'amour.
Amen.
Frères et sœurs, levons-nous maintenant pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu.
Le Dieu de l'espérance vous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen.